Thierry Deslauriers, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Maria.
Bonjour Olivier.
Nous vous recevons pour un livre qui va sortir d'ici peu, n'est-ce pas ? Dans quelques jours, je crois savoir.
Oui, qui sort mercredi 22 mars,
exactement. Mercredi 22 mars, j'en ai dit le titre, c'est « Charité à main nue ». Aux captifs, la libération, nos auditeurs connaissent, vous êtes passé sur notre antenne. Ce qu'ils connaissent peut-être un peu moins, c'est ce qu'il y a indiqué pour une spiritualité de la rencontre. Il y sera question de spiritualité, nous le verrons, de charité, beaucoup. Mais peut-être, voulez-vous bien, Thierry Deslauriers, vous présenter, encore une fois, sommairement.
Écoutez, je suis Thierry Deslauriers, directeur de l'association Aux captifs, la libération depuis bientôt 13 ans. Et avant, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise comme ingénieur et puis consultant en management.
Et cette reconversion, dirons-nous, est surprenante. Et qu'est-ce qui l'a motivé ?
Écoutez, quand j'étais étudiant, j'ai participé à la création d'Ingénieurs sans frontières. Et à ce moment-là, je m'étais posé la question de bifurquer vers l'humanitaire et le social. Et les gens que j'ai rencontrés m'ont tous dit « va d'abord travailler dans l'entreprise et reviens après ». Et donc, 26 ans après, suite à un appel du président des captifs, qui était à l'époque Jean-Guillaume Zéry, j'ai répondu favorablement à son appel et je me suis retrouvé à la tête d'Aux captifs, la libération.
Alors, Aux captifs, la libération, nous allons le rappeler, c'est pour rencontrer, accompagner les personnes exclues qui vivent dans la rue ou qui vivent de la rue. Les sans-domicile fixe, tous les cabossés, tous les fêlés, les brûlés de la vie. Et cela, nous le découvrons dans le livre, à travers tout un passage très méthodique d'ailleurs. Vous leur proposez cette charité qui est d'abord présence.
Tout à fait. L'essentiel que nous a livré notre fondateur, Patrick Giros, c'était d'aller rencontrer les personnes à main nue, pour une rencontre, une présence, et dire à ces personnes de la rue, donc personnes sans abri, personnes prostituées, eh bien tu es suffisamment importante, tu mérites d'être rencontrée pour toi et pour toi seule. C'est pour ça que je viens avec rien, uniquement pour passer du temps avec toi et te rencontrer de personne à personne.
C'est une question de fidélité, c'est-à-dire que les personnes qui vont rencontrer les autres sont toujours les mêmes, il y a besoin de mettre un regard, un son de voix et qu'il y ait cette régularité-là.
Oui, donc on souhaite vraiment rentrer dans cette fidélité et permettre un apprivoisement, hein, comme l'apprivoisement qu'évoque Saint-Exupéry dans Le Renard et Le Petit Prince. Fidèlement, on va se retrouver chaque semaine à la même heure, parce qu'on va faire le même binôme, on va faire le même trajet à la même heure. Et c'est ça qui va permettre une fécondité de la rencontre et puis une ouverture de la relation qui, pour certains, va se passer au bout de 3 minutes et puis pour d'autres, va se passer au bout de 3 semaines, 3 mois, 3 ans, voire 20 ans. Je n'ai pas encore connu de personnes qui ont mis 30 ans à éclore, mais ça pourrait.
Saint-Exupéry le dit très bien, Saint-Bernard le dit magnifiquement aussi, il dit « frequentando gustari », ça veut dire « on goûte les personnes en les fréquentant ».
Tout à fait, tout à fait. Puis on découvre les miracles qu'il y a dans leur cœur et on sort de la tentation qu'on pourrait avoir de les réduire à leur état de SDF. Alors c'est un mot qu'on n'utilise jamais aux captifs, on parle toujours de personnes sans abri ou à leur état de prostituée. C'est pour ça qu'on parle de personnes en prostitution pour bien dire qu'elles sont avant tout des personnes et qu'elles ont aussi une vie qui est en dehors de la difficulté qu'elles rencontrent dans la prostitution ou dans le sans-abrisme.
Alors, à Aux captifs, la libération et dans le livre, nous découvrons quand même, j'ai parlé d'une certaine méthode. Nous avons appris en travaillant ce livre-là que vous êtes attaché en fait à la doctrine sociale de l'Église et il y a un enracinement ecclésial affirmé dans Aux captifs, la libération, ça veut dire pour sortir peut-être des contrefaçons de la charité qui dégénèrent ou se profanent en bienfaisance ou en sympathie vague et lointaine. Vous parlez de main nue et vous êtes précisément dans ce que disait Benoît XVI dans Deus Caritas Est, dans une authentique formation du cœur.
Tout à fait. Ce qu'on, en fait, on est autant une association de charité qu'une association d'évangélisation. Si on entend évangélisation comme dans sa première acception, qui est de témoigner de l'amour de Dieu. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et c'est la première chose dont on a témoigné. C'est pour ça que quand on fait nos tournées rues, nous sommes à deux par deux, parce que on va d'abord témoigner de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, et donc on va commencer nos tournées en prenant le temps de nous rencontrer, et en prenant le temps de nous tourner vers Dieu pour que Dieu soit avec nous dans cette tournée, et que cette rencontre soit vraiment une rencontre fraternelle, même si on ne parle jamais, parfois on peut ne jamais parler de Dieu, mais les gens savent qu'on vient d'une paroisse, qu'on vient là au nom de l'Église, au nom du curé et de la communauté paroissiale qui nous envoie. Et c'est une porte qu'ils peuvent choisir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et puis parfois, on leur propose, quand on les connaît un peu plus, de venir à la prière qui a lieu chaque mois dans les paroisses où on est implanté, pour prier avec nous. Et certaines viennent, même des non-croyantes, même des musulmans. Et puis certaines choisissent de rester à la porte de l'église et de profiter du repas après. Même certaines préparent le repas avec nous et prennent le repas avant, mais ne viennent pas à la prière. Mais c'est aussi ça, la fraternité auquel on est appelé en église. C'est à aimer tout le monde sans distinction et sans condition de prosélytisme. C'est ce que Benoît XVI aussi dit dans Deus Caritas Est, c'est que la charité ne peut pas être prosélyte, mais par contre, le chrétien sait à quel moment il est bon de témoigner du moteur de son action. Et son moteur, c'est l'Évangile, c'est le Christ.
Ce moteur est le terme aussi, c'est Dieu de la charité, mais cet exercice de la charité auprès des grands brûlés est un exercice difficile. Est-ce que vous-même, vous avez été blessé de cette blessure qui ne guérit qu'au ciel? Car c'est ce qui permet souvent de tenir face à cette authentique détresse.
Ce serait bien prétentieux de dire que j'ai été brûlé de la brûlure dont les plus grands ont pu être brûlés, mais on ne peut pas, en tout cas, contrairement au travail social, aux écoles de travail social qui invitent à rester à juste distance pour ne pas souffrir de la relation avec la personne, quand on est chrétien, on ne peut pas accepter ne pas accepter de se laisser brûler, de pleurer avec ceux qui pleurent, de souffrir avec ceux qui souffrent, même si nos pleurs sont différents, même si nos souffrances sont différentes. Chaque souffrance est unique, chaque pleur est unique. Marie souffre de voir son fils sur la croix, mais la souffrance de Marie n'est pas la souffrance du Christ. Ce sont deux souffrances qui sont différentes, c'est des souffrances qui communient, mais elles sont différentes et il faut bien se garder de les assimiler. Mais cette brûlure, c'est que vous évoquez, c'est ce qui nous meut les uns et les autres captifs. Et en même temps, il faut aussi reconnaître que nous sommes limités, parce que seul le Christ nous sauve, seul le Christ peut prendre toutes les souffrances sur lui avec la croix. Et nous, on en prend notre petite part. Et puis quand on ne peut plus, on la passe au Christ. On la passe aussi à un autre membre des captifs quand on ne peut plus. Et c'est bien en communauté qu'on arrive à témoigner, ce n'est pas individuellement. Ça, c'est quelque chose de très important que j'ai découvert aux captifs. C'est que le souci du plus petit, le souci du plus pauvre, le souci de l'exclu, c'est un souci qu'on vit en communauté et pas individuellement. Un nombre de gens de la rue me disent, les captifs ont été fidèles. Mais c'est les captifs, c'est la communauté des captifs. Et en fait, quand je leur dis qui aux captifs, ils vont me citer 5, 10, 15, 20 personnes qu'ils ont accompagnées sur plusieurs années et qui font qu'ils disent les captifs ont été fidèles. Et j'espère qu'ainsi la communauté des captifs, les communautés paroissiales auxquelles on appartient, témoignent de la fidélité parfaite qu'est la fidélité de Dieu.
Alors, il y a cette fidélité de fond qui permet cette fidélité au service des pauvres, autrement dit au service du Seigneur, cette fidélité de fond qui se trouve dans l'oraison. Je crois savoir que vous avez une pancarte toujours devant vos yeux, avec cette citation magistrale de saint François de Sales, et on ne peut pas lui en remontrer au niveau de se faire manger par tous les bouts, il était servi, et qui disait une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé, alors une heure est nécessaire. Quelle est la place de la vie de prière dans Au captif la libération?
La place de la vie de prière, elle est propre à chacune des personnes, des captifs. Nous, on est d'église diocésaine, donc on peut vivre de spiritualités différentes. Ça peut être de certaines communautés auxquelles les uns et les autres appartiennent. Ça peut être d'une spiritualité plus paroissiale. Mais peu importe, et chacun a sa pratique de la prière. Mais la prière est essentielle. Et elle jalonne un certain nombre de nos réunions, elle jalonne un certain nombre de nos rencontres. Quand on se réunit ensemble, on a toujours l'Eucharistie au cœur. Et puis voilà, puis moi personnellement, j'ai l'habitude d'aller à la messe et de prier tous les jours, mais c'est mon attitude personnelle qui n'est pas une attitude d'engagement de tous les captifs, chacun selon son histoire.
Eh bien, espérons qu'ils grandissent aussi dans la charité, c'est-à-dire dans la vie sacramentelle et de prière. Charité à main nue, donc ce livre Thierry des Lauriers. À qui s'adresse-t-il?
Il s'adresse à tous ceux qui se disent chrétiens, tout simplement, parce que tout chrétien est appelé à aller vers son frère. Suis-je responsable de mon frère, demande Cain. Mais oui, nous sommes responsables de notre frère et nous sommes appelés à aller vers les autres. Et trop souvent, j'entends des gens qui disent « mais... » non, moi je suis pas capable, ce que vous faites c'est extraordinaire, mais moi je suis pas capable. Eh ben non, je crois que vraiment chacun est capable d'aller vers l'autre, d'aller vers son frère. Alors, il y a sans doute des marginalités, des histoires de vie qui sont compliquées à aborder, et on n'est pas, tout le monde n'est pas appelé à aborder n'importe quelle marginalité, n'importe quelle histoire, mais on est tous appelés à aller vers l'autre. Et à ce titre, je pense que la façon de faire des captifs, la méthodologie que vous évoquiez tout à l'heure, le fait d'aller à main nue dans la fidélité, avec un amour inconditionnel, avec un regard intégral sur la personne, c'est vraiment une démarche qui s'adresse à tout le monde. Alors dans mon livre, je témoigne de ce que nous vivons aux captifs auprès des personnes sans-abri, des personnes prostituées, mais je pense que cette façon de faire, on peut la déployer auprès de toute personne en marge.
Ah oui, c'est indiqué, une spiritualité de la rencontre. Je parlais de méthode, c'est qu'il y a petit 1 dans le livre. En effet, c'est au nom de Dieu et de l'Église. Ensuite, témoigner de la tendresse de Dieu, les difficultés. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il y aurait chaque passage à aborder parce que tout est décrit de façon précise. C'est un ouvrage qui parle de l'amour reçu, de l'amour divin reçu, de la charité et communiquer à travers une présence et une gratuité, vous le disiez, une fidélité, on apprend aussi, une inconditionnalité, pardon, et avec aussi, ma foi, le terrain nécessaire et les échecs si formateurs dans une authentique vie spirituelle, c'est-à-dire les moments où il y a pas moyen, quoi, il n'y a pas. Et vous avez donc sorti, comment vous avez fait l'ordre un petit peu dans tout ceci? Parce qu'il y a vous avez fait beaucoup de tournées rues, de rencontres, beaucoup d'expériences. Quel tamis vous avez posé pour donner à vos lecteurs, à travers ce livre, un petit peu la substantifique moelle?
Le tamis, il est venu assez naturellement, parce que dans notre charte, qui est un document théologique qui dit notre inspiration, il est bien précisé que nous sommes envoyés par l'Église. Et donc j'ai commencé par ce premier chapitre, quoi, voilà, en quoi nous sommes envoyés par l'Église. Et c'est important, voilà, d'aller vers les autres en étant nourri de la charité de Dieu même et d'être envoyé par l'Église. Même si, comme je précise, on peut être des drôles de disciples, puisque nous avons aussi dans nos salariés et aussi quelques-uns de nos bénévoles des gens qui ne sont pas baptisés, qui sont incroyants, mais qui sont séduits par notre manière de faire et participent aussi finalement de cette mission d'Église mystérieusement. Et puis ensuite, nous avons les quatre grands principes pour aborder la relation qu'on a déjà évoqués, qui sont le fait d'aller vers les personnes à main nue, dans la fidélité, avec un regard d'amour inconditionnel sur les personnes et en les regardant dans leur globalité, dans leur intégralité, et donc en intégrant aussi leur vie spirituelle, leur vie culturelle, leur vie affective. Et donc ça, c'est quatre grandes manières d'aborder la relation que j'ai que j'ai pris comme tamis. Et puis ensuite, il faut bien se dire, cette méthode, elle a, voilà, comme vous le disiez à l'instant, le disciple n'est pas plus grand que son maître, et on a des limites. Donc, il y a l'épuisement, hein, qui peut se manifester dans un burn-out. On a l'impuissance, hein, voilà. Même Jésus sur la croix est impuissant, reste encore impuissant à convertir un certain nombre qui continue de revendiquer contre lui, de récriminer contre lui. Et ben nous aussi, hein, on a nos échecs, comme vous disiez. Et puis on peut aussi avoir nos colères face aux injustices humaines. Et moi, je développe régulièrement une colère contre toutes les personnes qui vivent de la traite des êtres humains et qui osent exploiter les plus pauvres qu'eux pour en faire de l'argent avec et les réduire en esclavage. Et ça, c'est une colère continuelle que j'ai dans le cœur. Et après, malgré tout ça, nous sommes appelés à édifier l'Église avec les gens de la rue, édifier l'Église avec les plus pauvres et à prier avec eux. Et c'est le dernier chapitre de mon livre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité, en fait, que quand l'Église a des difficultés, quand la communauté ne va pas bien, il faut qu'elle, son remède, c'est de faire comme le Christ, au lavement des pieds. Et bien, au moment crucial, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne fait rien d'extraordinaire. Il noue le tablier et il lave les pieds de ses apôtres. Et c'est là qu'il dit après, voilà, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et c'est vraiment à ça qu'on peut témoigner au monde, hein, que le Christ est Seigneur, qu'il est vainqueur. Et c'est comme ça que l'Église pourra apparaître sainte aux yeux des hommes et guérir de toutes les failles et les difficultés qu'elle peut rencontrer aujourd'hui, mais qu'elle rencontrait hier aussi.
Et cette Église dont vous parlez fait penser à l'Église que cherche à éveiller le pape François, lorsqu'il préfère, dit-il, une Église qui justement risque sa vie, sa liberté, plutôt qu'une Église qui serait dans des comportements mondains ou bourgeois, dirons-nous.
Ouais, tout à fait. Et alors là, ça rejoint. J'ai eu une responsable de com qui, quand elle est arrivée au captif, elle a lu la charte, elle a eu des écrits de Patrick. Elle a dit, mais c'est pas possible, tu les as réécrits à l'aune du pape François. Je dis, non, j'ai rien écrit du tout. En fait, cette attention aux plus pauvres, elle est ancrée dans la chair des captifs depuis l'origine. Hein, on a un fondateur qui avait trois frères et sœurs handicapés et qui a toujours eu une grande sensibilité envers les exclus les plus pauvres. On a eu cette chance-là et en même temps un très grand attachement à l'Église. Et donc, on est très proche des intuitions de Patrick. Et forcément, quand on va côtoyer des personnes qui sont dans la rue, qui sont en prostitution, on côtoie des gens qui sont dans le gris. Ils sont jamais dans le noir complet, ils sont jamais dans le blanc complet, mais qui est dans le blanc, quoi? Et leur péché est public, en fait, leur situation est publique. Et combien de personnes sont pas plus claires que les gens qu'on stigmatise, mais dont la situation est purement privée. Donc, en fait, y a une chose que j'aime beaucoup aux captifs, c'est que tout le monde nous appelle captifs, quoi. C'est l'association qu'on appelle les captifs, mais aussi les bénévoles, mais aussi les salariés, mais aussi les gens de la rue. Et on est tous captifs. On est tous captifs de notre péché, avec des formes différentes. Et il faut pas avoir peur de ça, parce que le Seigneur nous a sauvés. Et il faut pas avoir peur de ce péché. Et faut se relever les manches pour vivre ensemble et créer cette civilisation de l'amour que le pape Paul VI appelait fortement de ses voeux.
Et ce grand écart, comment le faites-vous entre, je ne sais comment est l'Église de Dieu à Paris, mais entre une paroisse, dirions-nous, habituelle, avec ses facilités, avec ses endormissements, et le fait d'aller au contact de ceux que nous appelions les grands brûlés, où il s'agit quand même d'arracher une âme à la perdition et de façon directe et radicale. Comment vivez-vous cet écart-là?
Oh, je dirais qu'on le vit bien. C'est-à-dire qu'à Paris, L'association, elle est connue, elle est reconnue. L'autre jour, Monseigneur Guéguin, qui est le vicaire général, qui nous suit, nous disait, on lui demandait, mais que représentent les captifs pour l'Église de Paris? Il dit, c'est un cadeau. Et je pense que dans les paroisses, nous sommes reçus comme un cadeau et une chance pour aller rencontrer les autres, parce que justement, on a 40 ans d'expérience, on a des. Un savoir-faire, on a une charité qui nous habite, qui nous est donnée. Et alors le risque, c'est que les gens nous considèrent comme un spécialiste et se tournent uniquement vers nous. Non, alors nous, on se retourne vers eux en leur disant non, non, il faut qu'on y aille ensemble. Et aujourd'hui, les curés des paroisses dans lesquelles on est impliqué, ils sont tout à fait d'accord pour y aller ensemble, même s'ils se sentent pauvres. Hein, mais l'important, c'est de se sentir pauvre, parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on peut s'entraider les uns les autres. Sinon, on essaye de faire tout seul. On croit qu'on a sa solution. Et les captifs, c'est une voie auquel je suis attaché, et j'y crois, mais il y en a d'autres. On n'a pas d'exclusivité de la bonne expérience de la charité.
Non, 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 mais en tout cas pour tenir, certainement vous devez avoir eu quelques épiphanies ou théophanies, quelques moments où la perle précieuse est venue plus près de vous, dans ces eaux profondes là de la détresse. Quelle expérience particulièrement vous relance encore dans ce service là du Christ souffrant?
Il y a une expérience récente qu'on a vécue cette année, c'est qu'on a fait, on a défini notre plan stratégique, c'est-à-dire quoi, dans quelles orientations on allait porter notre attention dans les 5 ans qui viennent. Et on a fait ce travail-là de manière synodale, c'est-à-dire avec le soutien de la prière à l'Esprit-Saint, et aussi de manière participative avec les personnes accueillies, avec les bénévoles, avec les salariés. On a une démarche où il y a eu plus de 200, 250 personnes qui ont été impliquées. On a aussi impliqué les pouvoirs publics, tous nos partenaires. Et on a vécu une expérience fraternelle incroyable, et notamment 4 jours avec 70, avec 23 personnes accueillies. Et on a découvert qu'on avait tous une expérience à apporter, que les personnes de la rue, les personnes en prostitution, avaient justement une expérience que nous n'avions pas, bénévoles et salariés, et qu'il était important de l'entendre, et qu'ils avaient une capacité à nous entraîner dans la prière, une capacité à nous apporter des idées que nous n'avions pas, une capacité à avoir une audace que nous n'avions pas. Et notamment, les personnes prostituées ont quasiment crié pour que nous ayons une attention aux personnes qui se prostituent sur Internet. Et voilà, on a plein d'amis qui sont sur Internet et vous n'allez pas vers elles et ça serait bien qu'elles vous connaissent et ça leur ferait du bien. Et donc on va se lancer. On a considéré finalement que là, l'Internet c'était une rue numérique et que donc on pouvait y aller. Mais vraiment, c'était une question qu'on se posait depuis plusieurs années. Mais en fait, le fait que ce soit elle qui manifeste le cri a requis l'unanimité, que le fait qu'on devait y aller. Et vraiment, on a vu que. En fait, on était plus forts, plus ensemble, et quand on se regardait entre frères et sœurs ensemble. Et ça a été vraiment fondateur pour nous tous. C'était un moment exceptionnel. Après, chacun d'entre nous, on peut vivre des expériences particulières dans l'accompagnement de tel ou tel, d'une personne qui demande le baptême, d'une personne qui sort de la rue, d'une personne qui arrête de boire, ou d'une personne qui simplement même arrive à maîtriser sa consommation d'alcool, sans tomber dans les phases d'inconscience ou d'ivresse. Et on a plein de petites victoires au quotidien. Même quelqu'un qui rentre et qui nous dit bonjour alors que d'habitude il fait la gueule, bah ça c'est une petite victoire. Et c'est important de pouvoir les reconnaître, sinon c'est un travail sans fin qu'on arrêterait.
Alors ça, ce sont des petites victoires. Précisément, les épiphanies ou les théophanies sont de notre ordre, vous le savez bien. C'est lorsque, eh bien, il y a comme un arc électrique, ça veut dire que Dieu en nous trouve Dieu dans l'autre. Et est-ce que ça, vous l'avez vécu?
Ben oui, bien sûr. Alors, je pourrais parler de Joséphina, qui est une personne en prostitution au Bois de Boulogne, transsexuelle, qu'on voyait régulièrement depuis 2 ans, 2, 3 ans. toutes les semaines, qui montait dans notre camion, qui échangeait avec nous. Et puis un jour, elle monte pas dans le camion, donc on va la voir. On descend de notre camion, on va vers son camion. Elle était malade et donc on parle avec elle. Et puis on lui dit la semaine prochaine, on pourra pas venir parce que. Alors il dit, mais pourquoi? On sera à Paray-le-Monial. C'est quoi Paray-le-Monial? Donc on explique Paray-le-Monial, la cité du cœur de Jésus. Jésus est apparu à Marguerite Marie, etc. Et puis elle nous pose plein de questions. Et puis à un moment, elle dit, mais est-ce que je peux venir avec vous? On lui dit, oui, tu peux venir avec nous. Et alors elle dit, c'est quand? Ah non, je ne vais pas pouvoir parce que je veux m'occuper de ma maman. J'ai dit, mais si tu veux, on va prier pour toi. Et à ce moment-là, Joséphina a dit, non, non, mais si vous priez pour moi, priez pas pour Joséphina, priez pour James, c'est mon nom de baptême. Et c'est extraordinaire parce que voilà, au bout de 2 ans, elle nous révèle d'elle-même sa vraie identité et, voilà, et devant Dieu, je ne peux pas tricher. Et si vous priez pour moi, priez, ouais, priez pour James, c'est mon nom de baptême. Et ça, c'est vraiment un cadeau, une surprise. Mais on voit que l'Esprit Saint agit et est descendu à ce moment-là précis.
Pour restaurer et réparer l'icône, l'image de Dieu souillée, abîmée dans cet enfant.
Oui, tout à fait. Mais alors moi, je n'irai pas jusque à vous de dire que. Bien sûr, son image est souillée en cet enfant, mais en moi aussi. Gardons-nous tout jugement sur les personnes. Hein. J'ai vraiment compris en 13 ans de captif hein, pourquoi les prostituées peuvent nous précéder au royaume
Eh
de
bien,
Dieu.
ça nous intéresse, oui. Parce que
Pas compris.
c'est une parole de notre Seigneur, et nous ne l'avons pas dit, mais en tout cas, le livre que vous publiez aux éditions Arthège est émaillé de façon très heureuse par la parole de Dieu. Je disais que c'était presque une sorte d'enseignement, de catéchèse sur l'exercice de la charité dans cet exercice-là, hein, dans les conditions que vous évoquez aux captifs, la libération. Donc pourquoi, voilà qui peut nous intéresser, non pas pour devenir prostituées nous-mêmes, mais ça serait un petit peu trop facile hein, comme raisonnement. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que vous êtes bien placé, en tout cas, pour le dire, oui.
Je pense qu'il y a 2 choses. Hein. Déjà dans l'évangile, ce que Jésus continue en disant, parce que il parle des publicains et des prostituées, et il dit parce que Jean-Baptiste est venu et il se convertit. Et moi, ce dont je suis témoin, c'est que les personnes prostituées ont un vrai désir de se convertir. Elles ne se convertissent pas peut-être dans le sens où nous, nous aimerions, mais voilà, je pense à cette femme qui se prostitue, qui continue de se prostituer, même si elle va à la messe tous les jours. Mais depuis qu'elle a décidé d'aller à la messe tous les jours, elle ne boit plus. Et voilà une conversion. Et c'est, y a un désir de conversion. Et puis, en fait, l'addiction, quoi, l'attachement, l'addiction à la prostitution, je voudrais pas utiliser des termes que les psychiatres sur lesquels me récuserais, mais en fait, il y a un attachement qui est vraiment quelque chose de compliqué et je ne peux pas juger de dire c'est difficile en fait de sortir de la prostitution, mais je vois bien ce désir de s'en sortir. Ou bien je pense à cette autre personne prostituée qui était venue à Rome avec nous, qui s'était confessée, qui avait communié, mais que le dimanche me dit, je n'ai pas communié parce que je savais que le lendemain, je retournais au bois et j'ai compris que je ne pouvais pas approcher Jésus si j'avais décidé de retourner au bois. C'est pour moi un respect incroyable de l'Eucharistie. Et puis la deuxième raison pour moi, c'est que, en fait, quand on imagine la vie des personnes en prostitution, elles côtoient, quoi, l'une d'entre elles me disait, en fait, les clients me font faire des choses que je ne veux pas faire, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement parce qu'il y a la pression du proxénète, il y a la pression du client, il y a toute la violence hein, qui est liée à la prostitution. Mais en fait, ces personnes voient 5, 10 fois par jour la misère humaine, la violence humaine, et subissent une passion en quelque sorte. Et donc elles approchent de la passion du Christ Et puis elles voient leur impuissance à sortir de ce guépier. Et je pense que voilà, elles sont très proches de la passion du Christ, de mon avis, de par leur expérience. Même si ça peut nous sembler très, très surprenant et que c'est pour cette raison que le Christ les accueille, elles ont une liberté, hein, toujours, de pouvoir choisir de sortir. Mais choisir de sortir de la prostitution, c'est compliqué, hein. Il y a 3 semaines, il y a une femme qui avait choisi de sortir de la prostitution, de dénoncer le réseau. Et elle a reçu par WhatsApp des photos de son mari qui avait été torturé au Nigeria. Le réseau a réagi immédiatement à sa volonté de s'en sortir. Et donc c'est vraiment un piège quand on est dans des situations telles que celle-là. Et donc, ce qu'elles vivent et ce qu'elles endurent, c'est vraiment digne de la passion du Christ.
Alors, lors de cette passion-là de notre Seigneur, comme tous ceux qui souffrent grandement, souvent c'est le silence et la prière qui permet à l'esprit d'agir. Est-ce qu'il y a des moments où vous faites des temps plus prononcés, plus forts de prière, des chaînes pour justement passer par le haut et déverrouiller ce qui ne peut pas l'être avec la meilleure volonté du monde à étage humain, mais passer par les moyens surnaturels et divins?
Bien sûr, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on avait ce temps de prière rue, qui est une prière qui a lieu dans l'église avec les gens de la rue et avec les paroissiens toutes les semaines, tous les mois. Et puis on a aussi un réseau de priants, hein, de gens qui prient pour nous et qui reçoivent tous les mois les intentions d'une des antennes et qui reçoivent des nouvelles ensuite des suites qui sont données. Et la prière, elle est vraiment. Elle nous accompagne en permanence, elle est au cœur de notre action. Je vous disais aussi tout à l'heure que un nombre de réunions commence par la prière pour pouvoir être éclairé par l'esprit et qu'on puisse travailler ensemble dans un esprit de concorde et au service du royaume. C'est une condition clé. Après, moi je suis très prudent sur faire les liens, des liens trop directs. Je crois que la prière agit, mais parfois c'est vraiment de manière très, très mystérieuse et avec des chemins étonnants, quoi. La miséricorde me surprend toujours sur les chemins qu'elle prend, et c'est pas forcément les miens qu'elle prend. La voix de Dieu est très, très surprenante. Je vous parlais de Joséphina tout à l'heure, mais je pense aussi à cette femme qui se posait la question d'un avortement, qui après son temps de réflexion lui avait invité à prendre, a choisi d'avorter. On lui avait proposé aussi de rencontrer un prêtre, elle a refusé. Voilà. Mais le lendemain de son avortement, elle nous appelle en disant « Je veux voir un prêtre ». Et donc, on lui dit bah, « Ok ». Donc, tu viens à la paroisse de la Trinité à Paris, et puis elle traverse la paroisse de la Trinité, et elle passe devant l'adoration permanente, et dit, c'est quoi ça? C'est une femme évangélique. Donc, le Christ et l'Évangile, elle connaît, mais l'adoration, elle ne connaît pas. On lui explique. Elle dit, bon, ok, je reste voir Jésus. Donc, elle est restée une demi-heure à adorer, et le prêtre qui l'attendait a dû attendre une demi-heure qu'elle voie d'abord Jésus. Et puis après, elle est allée voir le prêtre, et après, les choses sont restées dans le secret de son échange avec le prêtre, mais voilà, le chemin de la miséricorde est complètement étonnant. C'est pour ça que la prière est nécessaire, pour qu'on accepte de se laisser surprendre par la miséricorde.
Et cette miséricorde qui ne va jamais sans la justice, tout comme la charité, nous avons cité Benoît XVI qui est cité dans votre ouvrage, et nous savons qu'il y a caritas in veritate, c'est-à-dire la charité dans la vérité et la charité de la vérité, c'est-à-dire aussi de dire les choses et peut-être aussi d'utiliser cette pharmacopée, c'est-à-dire aussi d'affirmer. Et comment affirmez-vous aussi le risque réel de perdition et de damnation qu'il y a pour les personnes que vous accompagnez?
Alors, en fait, les personnes prostituées, je veux dire, il n'y a pas besoin de leur dire que c'est un chemin de perdition, elles le savent, elles en souffrent. C'est-à-dire que c'est. En fait, ce serait une injure que de leur dire que c'est un chemin de perdition et une souffrance. Elles reconnaissent qu'elles se sont fait piéger. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais choisi. En fait, il faut avoir en tête que faut sortir de cette image comme quoi les personnes ont choisi de se prostituer. Il y en a peut-être quelques-unes, mais 5 à 10% maximum. Les autres, elles ont été piégées par un homme qui les a séduits, par une femme qui les a séduits en leur disant « je vais te trouver un boulot qui va te permettre de faire vivre ta famille ». Si je prends l'exemple des femmes nigérianes, très souvent on leur dit « tu vas être couturière ou coiffeuse à Paris et tu vas pouvoir nourrir ta famille, nourrir ton village ». Et elles se laissent séduire par ça et elles arrivent et elles découvrent qu'elles sont sur le trottoir. Et c'est vraiment une souffrance. Il y a des travaux d'une psychiatre qui montrent très très bien que c'est assez systématique et qu'il y a une dissociation. Pour se protéger de cette souffrance, les femmes provoquent une dissociation de leur corps avec elles-mêmes pour que l'acte prostitutionnel ne touche pas leur être intime et n'abîme que leur corps, si je me peux permettre ça. Mais en faisant cette séparation, elles se déchirent à l'intérieur mort, et donc c'est un déchirement intérieur. Donc le désir d'une unité, de retrouver cette unité, il est naturellement dans la personne. Et donc là, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup de choses sur la vérité. Et puis, avant d'annoncer la vérité, et pour être dans la charité de la vérité, il est important de... En fait, ces femmes, elles ont été trompées. Si je prends les femmes nigérianes, après, je pourrais prendre chaque parcours, mais restons sur les femmes nigérianes. Là, elles ont été trompées par les gens qui leur ont raconté des histoires. Et la première chose qu'on a à faire, c'est de les apprivoiser, pour qu'elles aient confiance en nous, parce que quand elles nous voient et elles nous rencontrent, on le voit, elles disent « Ah, oh, ceux-là, ils sont gentils, mais je me souviens que les autres qui m'ont trompé, ils ont été gentils au départ. » Et donc, comment je fais ? Prudence. Et donc, elles vont commencer un chemin avec nous après, le plus souvent après 2 ou 3 ans, rarement plus tôt. Alors, ça peut arriver, mais rarement plus tôt, parce qu'elles se disent « Bon, j'ai l'impression que je peux leur faire confiance. » Et la confiance va naître ici. Mais le fait que la prostitution n'est pas une bonne chose, elles le savent déjà par cœur, et beaucoup plus que nous. En fait, on n'imagine pas les souffrances qu'elles vivent.
Et pour les autres, vous avez beaucoup parlé des prostituées. Pour les autres personnes, est-ce que ça a aussi une pertinence pour vous, ou de parler de la vérité, de ce qu'on appelle le risque réel de damnation, ou les fins dernières, vous savez, comme pour... réveiller peut-être l'âme qui s'égare, qui est dupée ou bernée.
Déjà, moi, je pense que les personnes... j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais en prison et vous m'avez... visité, j'étais malade et vous m'avez visité. Le prisonnier, on ne sait pas s'il est prisonnier parce qu'il a fait une connerie ou s'il est prisonnier politique. En fait, Jésus se reconnaît dans tous les prisonniers, quels qu'ils soient. Et ces personnes ont une proximité mystérieuse avec le Christ que nous n'avons pas. Et c'est la première chose à reconnaître. Et puis, dans les gens qui sont sans abri à la rue, il faut avoir en tête que c'est des parcours de vie blessés. Alors, il faudrait actualiser les dernières statistiques qui sont disponibles parce qu'il y a une part d'étrangers qui est plus grande que lorsqu'elles ont été faites. Mais les statistiques que je vous donne ont 5 à 10 ans. Mais il y a un tiers des gens qui sont à la rue qui sont des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez un tiers des gens à la rue qui ont une maladie psychiatrique grave. Vous avez 25% des gens à la rue qui sont passés par la case prison. Et je pourrais continuer la litanie. En fait, on a la majorité des gens qui sont à la rue sont des gens qui sont blessés, des cassés de la vie, et qui peuvent avoir un cœur d'or derrière ces blessures et ces cassures, et qui font avec. Et je me souviens de la prière de Michael qui était avec nous là sur le chemin de Saint-Jacques et qui disait à la Vierge Marie, tu sais que je t'aime bien, tu sais que j'ai un bon cœur, mais aide-moi à faire moins de conneries. Et bon, voilà, Michael, il en doit être à 25 peines de prison, mais c'est 25 peines de prison. Faut avoir 25 peines de prison, il faut faire que des petites conneries, quoi. Si vous me permettez le mot d'expression, de conneries. Et bien sûr, il a envie de faire le bien, il a envie de se réformer. Et on est là pour l'accompagner pas à pas, l'aider à avancer. Et voilà. Et lors de son dernier séjour en prison, on est passé le voir. Et il a eu cette prière, quoi, cette parole qui a été une parole d'encouragement extraordinaire pour nous. Il dit, voilà, quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore les captifs. Donc voilà, c'est dire comme il sait bien, comme il fait des conneries, mais c'est dire comme voilà, il compte sur la main qu'on lui tend et sur l'accompagnement fraternel qu'on a avec lui pour pouvoir continuer à avancer. Et je serais pas étonné que lui aussi nous précède au royaume des cieux.
Thierry Delorier, merci en tout cas de terminer sur cette image. Hein. Ça illustre bien ce livre qui veut porter un regard neuf sur le prochain. Une spiritualité, dites-vous, de l'amour, de la rencontre. La charité à main nue, c'est publié aux éditions Artege. Pour inciter vivement nos auditeurs, auditrices, les droits d'auteur, n'est-ce pas, seront versés intégralement à l'association Aux Captifs, la Libération.
Tout à fait.
Est-ce que nous allons pouvoir faire de notre côté, c'est-à-dire prier Vêpres ? Eh bien, nous pensons bien à vous et à cette œuvre admirable. Aux Captifs, la Libération, Thierry Delorier, merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Radio Maria et un Saint-Carême.
Merci infiniment à vous et merci de votre accueil.
Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Nous recevions Thierry Delorier pour Charité à main nue, Aux Captifs, la Libération, une spiritualité de la rencontre, publiée aux éditions Artege. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.